Les enseignants d'une partie importante d'entre vous m'ont sollicité il y a un certain temps. On avait convenu d'un sujet qui pouvait, c'est du moins l'espoir, servir à plusieurs choses. C'est-à-dire que ça n'est pas sans rapport avec le programme d'histoire, puisqu'il s'agit des États-Unis, le programme d'histoire du concours. Et d'autre part, ça fait écho à des questions qui peut-être sont discutées dans le cours de philo. Alors, des deux côtés, il n'est pas certain que ce soit exactement la même chose, c'est-à-dire que côté philo, la question de quoi parle-t-on quand on parle culture, je ne suis pas toujours sûr, mais je vais en tout cas prendre un objet historique, c'est-à-dire un moment où on débat sur ce que c'est que la culture. Et d'autre part, du côté histoire, j'avouais tout récemment qu'en fait, je me suis rendu compte que la date de 88, qui je crois vient terminer votre chronologie pour celles et ceux qui préparent le concours, en fait, c'est une excellente date pour commencer certains de ces débats. Donc, je déborderai, je ne respecterai pas la chronologie, mais j'essaierai de vous montrer qu'au fond, le choix qui a été fait pour votre programme, que ça s'arrête en 88, était un choix d'une profondeur extrême sur ce sujet, puisque c'est un tournant majeur dans l'histoire de l'humanité, et en tout cas des États-Unis. Donc, bon, je vais vous raconter des petites histoires, en espérant que ça vous sera utile. Et ce que je vais faire aussi, c'est parce que mon intérêt pour ces questions n'est pas seulement académique, c'est-à-dire que c'est pas seulement parce que je m'intéresse aux États-Unis ou parce que je me demande ce que c'est que la culture, mais aussi parce que je crois que ce sont des enjeux politiques. Et ce sont des enjeux politiques pas seulement aux États-Unis, ce que je vais principalement vous raconter, mais aussi des enjeux politiques en France. Donc je vais essayer de faire un peu le va-et-vient entre la France et les États-Unis, parce que cette question, si elle porte pour vous sur les États-Unis, c'est une question qui est malgré tout posée en France et depuis la France. Or, la référence aux États-Unis, comme vous le savez, est un enjeu en France constamment. Alors, je partirai donc de 88, puis je reviendrai en arrière et après j'irai même au-delà de 88. Mais je partirai de 87, 88, 89, c'est-à-dire d'un moment où se met en place en France quelque chose qu'on peut appeler l'Amérique. L'Amérique, c'est quoi? C'est le fait qu'on invoque les États-Unis comme une référence pour penser des questions sur la France. Donc l'Amérique, ce n'est pas les États-Unis. Les États-Unis, c'est une société, c'est un État, c'est une nation réelle, alors que l'Amérique, c'est une figure de rhétorique dans le discours intellectuel, dans le discours historiographique, dans le discours politique en France. Donc quand je dirais Amérique, ça veut dire rhétorique de l'Amérique en France. Quand je dirais États-Unis, ça veut dire les États-Unis, les vrais. Ce qui se met en place vers 87, 88, 89, c'est d'un côté une référence scientifique aux États-Unis et de l'autre une référence politique à l'Amérique. Alors je vais vous dire deux mots d'abord sur la référence scientifique aux États-Unis. Un historien dont vous avez peut-être entendu parler, Gérard Noiriel, historien de la classe ouvrière française, historien de l'immigration, publie en 1988 un livre qui s'appelle « Le creuset français ». Vous voyez dès le titre que la référence aux États-Unis est présente. C'est-à-dire que le fait même d'utiliser creuset, c'est une traduction du melting pot dont j'imagine vous avez entendu parler et qui est en quelque sorte un des mythes fondateurs des États-Unis. Donc ce livre publié en 1988, qu'est-ce qu'il propose? Il propose une réflexion sur la place de l'immigration dans l'histoire de la nation française. Autrement dit, il ne s'agit pas simplement de dire, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a non seulement aujourd'hui, mais il y a eu dans le passé beaucoup d'immigrés en France. Bien sûr, il s'agit de dire cela, mais il s'agit de dire que l'histoire de la société française et l'histoire de la nation française gagnent à être relues à la lumière de l'histoire de l'immigration. Autrement dit, l'immigration n'est pas simplement un élément à rajouter dans l'histoire de la France, c'est un élément qui oblige à repenser l'histoire de la France. Cette thèse, elle nous est devenue à tous assez familière, je crois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il paraît assez évident que l'immigration n'est pas une question radicalement étrangère à l'histoire de la France. Au moment où cette problématique est posée par cet historien Gérard Noiriel, ça n'allait pas de soi, puisque, à bien des égards, il n'y a pas de livre qui ait précédé celui-ci et dont il serait la répétition, le prolongement, la correction. C'est-à-dire que quand on s'intéressait à ces questions, on s'y intéressait en se disant qu'au fond, eh bien, qu'est-ce qu'il y a en France ? Il y a une classe ouvrière. Donc, le fait que ce soit un historien de la classe ouvrière qui dise qu'en fait, il n'y a pas seulement des prolétaires, mais il y a aussi des immigrés, eh bien, ça modifie le récit national. Ça, c'est du côté de l'histoire française. Mais c'est du côté de l'histoire française aussi en tant que représentation de l'histoire. C'est-à-dire, c'est non seulement ce qui s'est passé dans l'histoire de la France, mais aussi la manière dont on se représente cette histoire. Et un des objets que discute Gérard Noiriel dans cet ouvrage, ce sont les lieux de mémoire. Alors, je ne sais pas si ce sont des volumes que vous avez déjà croisés ou dont vous avez déjà entendu parler. Dans les années 80, se met en place une sorte de monument éditorial qui s'appelle les lieux de mémoire, dirigé par un historien, Pierre Nora, qui comprendra de nombreux volumes. Je dis de nombreux parce que j'oublie. Il y en a, je crois, 7, mais c'est en gros 7. Enfin, l'ordre de grandeur des lieux de mémoire. Et tous n'étaient pas encore parus en 1988. Et ces lieux de mémoire qui sont constituent en quelque sorte une histoire imaginaire de la France, une sorte d'histoire mémorielle de la France, eh bien les lieux de mémoire de Pierre Nora ne touchaient pas un mot de l'immigration. L'immigration était hors-jeu. On avait bien sûr des chapitres qui renvoyaient à l'histoire des monuments aux morts dans la Première Guerre mondiale, ou bien on avait des chapitres sur le rôle de l'Académie française, ou on avait des chapitres sur le rôle de manuels scolaires utilisés sous la Troisième République. Donc on avait toutes sortes d'institutions bien françaises, mais en fait ce qui manquait dans ce tableau, c'était l'immigration. Alors, l'un des effets du livre de Gérard Noiriel, c'est que ensuite Pierre Nora lui a demandé un chapitre pour un des volumes suivants, et que donc il y a un chapitre qui introduit la question de l'immigration. Mais on voit bien que l'immigration est intervenue dans les lieux de mémoire un peu comme un repentir. C'est-à-dire que on avait oublié que l'immigration faisait partie de l'histoire nationale. Alors au passage, si vous voulez, je suis encore loin des États-Unis, mais je vous promets que j'y arrive bientôt, si vous voulez voir aujourd'hui, on pourrait faire remarquer que non seulement il n'y avait pas l'immigration, mais qu'il n'y avait pas non plus l'histoire de la colonisation, qu'il n'y avait pas non plus l'histoire de l'esclavage. Or, comme vous le savez peut-être, ce sont des questions qui, aujourd'hui, amènent de la même manière à réinterroger le récit national, c'est-à-dire à se dire qu'est-ce que c'est que la France, qu'est-ce que c'est que son histoire, et qu'est-ce que c'est que cette mémoire, et quel est son rapport avec l'histoire. Vous le savez sans doute, et si vous voulez, on pourra en reparler, mais ça fait partie des recompositions du récit national qui se jouaient déjà à la fin des années 80, et qui continuent de se jouer, en des termes différents bien sûr, aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que les États-Unis viennent faire là-dedans ? Eh bien, les États-Unis servent de contrepoint pour Gérard Noiriel dans son analyse. Parce que si, au fond, le récit national a été construit de telle sorte que, au fond, on oublie que l'immigration existe. Bien sûr, on sait qu'il y a des immigrés. On peut même, à la limite, savoir qu'il y en avait déjà dans les années 30. On ne savait quand même pas qu'il y en avait autant dans les années 30 en France qu'aux États-Unis proportionnellement. Puisqu'on avait l'impression que les États-Unis étaient un pays d'immigration et la France, non. Mais on n'avait pas pensé que c'était quelque chose qui était fondamental dans la construction du pays. Mais donc ça veut dire que si on n'y avait pas pensé, c'est très difficile pour un historien de le rendre pensable. Et comment le rendre pensable ? Eh bien, avec le détour par les États-Unis. C'est-à-dire que quand on veut penser la question de l'immigration en France à la fin des années 80, on introduit la référence aux États-Unis. On se dit que, au fond, il serait possible, comme aux États-Unis, de réfléchir à cette histoire de l'immigration. Et ça transformerait le récit national, comme c'est le cas aux États-Unis. Donc les États-Unis jouent un rôle scientifique, comme référence, si l'on essaie de penser la question de l'immigration, précisément parce qu'elle a été impensable dans les termes de l'historiographie nationale. Et pourquoi est-elle impensable dans les termes de l'historiographie nationale ? Parce que l'historiographie nationale, elle a un lien avec la mémoire nationale. Que l'histoire, comme vous le savez, ça n'est pas simplement un savoir scientifique, c'est aussi un savoir qui a une vocation dans la cité, qui est d'instituer les citoyens. Alors ça, c'est du côté de la référence aux États-Unis, donc à une société réelle, à partir d'une connaissance réelle de cette société et de son histoire, mais il y a aussi la référence à l'Amérique. Au même moment, c'est-à-dire autour de 88-89, en France, on commence à invoquer l'Amérique, et sur les mêmes sujets, c'est-à-dire en particulier sur tout ce qu'on appellera bientôt le multiculturalisme, c'est-à-dire le fait que va se mettre en place, en particulier en 1989, en France, au moment du bicentenaire de la Révolution française, au moment aussi de la chute du mur de Berlin, et au moment de la première affaire du foulard islamique, donc la conjonction des trois événements en 1989, est l'occasion d'une formulation d'un discours sur l'Amérique qui oppose la République, c'est-à-dire la France, à l'Amérique, qui serait en quelque sorte l'envers, le contre-modèle. Donc ce qui se met en place en 1989 dans tous les débats publics en France, c'est que si on veut réfléchir à ce que c'est que la République, à ce que c'est que la nation française, eh bien on doit le faire à travers un contraste entre nous et eux. Nous, la France républicaine, universaliste, qui ne connaîtrait pas des différences de culture et qui connaîtrait seulement des individus face à l'État, par contraste avec l'Amérique, encore une fois, j'insiste sur mon choix de vocabulaire, je parle de l'Amérique et non pas des États-Unis, donc de cette figure de rhétorique, je ne vous dis pas que les États-Unis fonctionnent comme ça, les États-Unis, ce n'est pas l'Amérique. Donc l'Amérique, ce serait ce pays constitué de communautés, et donc défini par un modèle politique, par une tradition culturelle qui est celle du communautarisme. C'est l'opposition qui se met en place en 1989 dans le débat public en France. Si je le rapportais au bicentenaire de la Révolution française, c'est parce que au moment du bicentenaire de la Révolution française se joue un rapport entre les historiens et les historiennes. Le féminin est important dans cette affaire français et américain, avec une concurrence sur la lecture de l'événement révolutionnaire français, et avec en particulier une critique chez un certain nombre d'historiennes américaines de la vision de la République, précisément, avec l'idée que la République, c'est bien beau, mais ça a contribué à exclure les femmes. Et donc la critique féministe de la Révolution française et de l'héritage républicain va contribuer à constituer cette polarité avec, entre autres, une tension nationale entre historiens français et historiens américains, et dans certains cas, entre historiens français et historiennes américaines de la France et de la Révolution française. Donc ce qui se met en place dans le discours public, là je ne suis plus dans le registre scientifique, mais ce qui se met en place dans le discours public, c'est l'idée que l'Amérique est un contre-modèle. C'est l'envers de la République, et donc, tandis que nous, Français, sommes par tradition républicaine, révolutionnaire, les héritiers de l'universalisme, eh bien, les Américains seraient enfermés dans le communautarisme et donc le différentialisme. À certains égards, cette opposition rejoue une opposition qui avait déjà fonctionné depuis la guerre de 1870, en gros jusqu'à 1940, c'est l'opposition entre culture et civilisation qui fonctionnait comme une opposition entre l'Allemagne et la France. Si ça vous intéresse, j'y reviendrai. Et j'ai cru comprendre que vous aviez déjà rencontré cette affaire, avoir vos sourires interloqués en vous disant on n'avait pas attendu la civilisation ici. J'avais promis de parler de culture, mais pas de civilisation. Mais bon, donc si vous voulez, j'y reviendrai. Mais il me semble qu'à certains égards, c'est un recyclage sur le modèle de l'opposition entre la France et l'Amérique, d'une opposition qui a joué entre la France et l'Allemagne. Et les termes de l'opposition entre la République universaliste et l'Amérique communautariste, à certains égards, vont rejouer des éléments qu'on avait déjà rencontrés dans l'opposition entre l'Allemagne prisonnière du discours de la culture et la France s'affranchissant grâce à la civilisation. La preuve qu'il y a un rapport entre les deux, me semble-t-il, c'est que, de fait, même si je mets l'accent sur ce contraste entre la France et l'Amérique qui joue en France à partir de 1988-89, eh bien, en même temps, il va y avoir des discours jouant de la comparaison entre la France et l'Allemagne. Chez un certain nombre de philosophes comme Alain Finkielkraut, mais aussi chez un certain nombre de sociologues comme Dominique Schnapper, en référence à des auteurs comme Louis Dumont. Là aussi, si vous le souhaitez, je pourrais y revenir. Mais pour l'instant, je me dis qu'il serait temps que je vous parle des États-Unis et de l'Amérique. Donc, si j'ai souhaité commencer par ce versant français de l'histoire, c'est parce que je crois que lorsqu'on parle des questions de culture aux États-Unis, on est toujours pris dans le fait que cette question, elle a une histoire française. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à la question de la culture aux États-Unis ? Eh bien, parce qu'on s'est dit que là-bas, ça se posait autrement. Et en particulier par rapport à l'histoire de l'immigration et par rapport à l'histoire de la pluralité des cultures. Donc notre intérêt à tous sur ces questions n'est pas un intérêt désintéressé, ça n'est pas un intérêt qui n'aurait aucun rapport avec le monde dans lequel nous vivons, c'est un intérêt qui est ancré dans le monde dans lequel nous vivons et dans lequel nous vivons aujourd'hui, pas simplement en 1988, donc dans le monde dans lequel vous aussi vous vivez. Alors, deuxième élément sur cette période 87, 88, 89, c'est que il y a non seulement l'invocation d'un modèle, à certains égards, pour penser l'immigration en France, on va aller chercher les États-Unis, non seulement l'invocation d'un contre-modèle pour conjurer le péril du communautarisme, il faut se défier de l'Amérique, du multiculturalisme, mais il y a aussi le fait qu'on va se référer aux États-Unis par une sorte d'importation. Donc je reste autour de 87, 88, 89, 90, et je vous promets qu'il y a un moment où j'irai en arrière. Ce sera pas si bien que ça, le fait de l'avoir annoncé plein de fois fait que vous serez sans doute déçus, mais bon, je vous promets. Donc, qu'est-ce qui se passe vers 87, 88, 89, 90 ? Eh bien, il y a aux États-Unis un livre qui paraît, qui s'appelle « The Closing of the American Mind ». En français, vous n'avez pas besoin de savoir le titre en anglais, je vous le dis comme pour que vous l'ayez entendu une fois, mais le titre en français c'est « L'âme désarmée ». C'est le travail, l'œuvre, l'essai d'un philosophe, Alan Bloom. Alan, ça s'écrit A-2-L-A-N et Bloom, ça s'écrit B-L-2-O-M. Donc Alan Bloom qui publie un livre en anglais, « The Closing of the American Mind », qui est immédiatement traduit en français chez Julliard sous le titre donc « L'âme désarmée ». Alors ce livre, il est intéressant par lui-même, mais il est intéressant aussi par la résonance qu'il a eue dans le débat public aux États-Unis et par l'écho qu'il rencontre en France. Alan Bloom est un philosophe straussien, donc disciple de Strauss, et j'aurai l'occasion de redire un mot, malgré ma grande ignorance de Strauss, mais à l'occasion, puisque je vais vous parler un petit peu de néoconservateur tout à l'heure, et que les néoconservateurs aux États-Unis se réfèrent beaucoup à la philosophie de Strauss. Donc Alan Bloom est un philosophe conservateur qui se réclame de Strauss, qui est un élève de Strauss et qui est un lecteur de Platon, de Rousseau, de Shakespeare. Ce philosophe écrit un essai critiquant le relativisme sur les campus. Donc la traduction française est assez loin du titre original américain, mais elle donne malgré tout un peu l'ambiance avec le simple terme d'âme déjà, le fait d'évoquer l'âme, c'est-à-dire qu'on est dans une sorte de hauteur platonicienne, et il s'agit de regretter le fait que, au fond, la culture des campus, sous toutes sortes d'influences, eh bien, c'est une culture qui n'est pas la culture. Autrement dit, il y aurait une rupture entre la culture américaine telle qu'elle s'exprime sur les campus et la culture avec une majuscule. Le paradoxe de cette tension entre la culture américaine et la vraie culture, c'est-à-dire la culture majuscule où l'on parle de nom propre, Platon, etc. Le paradoxe, c'est que une des causes pour Alan Bloom, comme pour beaucoup de ses contemporains conservateurs, une des causes de cette crise de la culture majuscule, c'est l'influence de la culture majuscule française. C'est-à-dire que, pour dire vite, c'est la faute à Derrida. C'est un moment où se met en place, dans le débat intellectuel américain, une critique radicale de l'importation de la pensée française, de ce qu'en France on a commencé d'appeler la pensée 68, et de ce qui aux États-Unis s'appelle davantage la déconstruction, avec en particulier la référence à Derrida, donc, mais avec Derrida, bien sûr, viennent aussi Foucault et d'autres auteurs. Bourdieu n'est pas encore acclimaté à ce moment-là. Bourdieu viendra dans les années 90 aux États-Unis. Enfin, viendra pas seulement en tant que personne, mais disons son influence viendra dans les années 90. Donc, que dit Alan Bloom ? C'est que, au fond, ces Français, ces philosophes français qui critiquent les grands textes, donc qui les déconstruisent, ils sont en train de saper les bases mêmes de la culture. Donc toute l'entreprise de relecture critique inspirée par la pensée française et qui aux États-Unis donc s'est acclimatée sous le terme de déconstruction ou également sous le terme de théorie, tout simplement, théorie avec une majuscule, ou bien de French theory, donc c'est la théorie française, mais toujours avec des majuscules. Donc tout ce qui s'est importé de cette manière-là aux États-Unis apparaît comme ce qui a fragilisé l'édifice de la culture canonique telle qu'elle est transmise dans les universités. Et en particulier, ce qui se passe à ce moment-là, c'est une grande bataille qui s'engage autour de ce qu'on appelle le canon. Alors c'est quoi le canon ? Dans les universités américaines, une des spécificités qui ont joué un rôle important tout au long du XXe siècle, c'est le fait qu'on considère qu'il ne faut pas simplement enseigner des choses spécialisées, mais qu'il faut aussi une sorte de cœur de l'enseignement, core, donc ce qui est véritablement central, et que tout le monde doit avoir en partage, une sorte de culture commune transmise par l'université. Et cette culture commune, c'est le canon, et le canon, eh bien, c'est le canon occidental. Donc il y a des cours aux États-Unis qui ne sont pas ni des cours de lettres, ni des cours de philosophie, qui sont des cours de culture occidentale, ou de civilisation occidentale, ou d'humanité, qui sont des cours obligatoires dans les universités, et qui sont des cours fondateurs, donc où on va lire la Bible, où on va lire Dante, où on va lire Platon, où on va lire Rousseau, où on va lire Shakespeare. Donc après, vous voyez bien que ça ne correspond pas à un découpage disciplinaire tel qu'il existe dans l'enseignement français. On regroupe des textes religieux, des textes philosophiques, des textes littéraires, mais tout ça, ça constitue l'Occident, et ce sont les humanités, donc une sorte de fond humaniste commun, c'est le canon. Cette culture humaniste commune, c'est celle dans laquelle se reconnaît Alan Bloom, et c'est celle qui, à son avis, est remise en cause par des influences telles que l'influence française. Mais ce que d'autres auteurs au même moment vont souligner, c'est qu'il ne s'agit pas simplement des influences françaises, il s'agit aussi d'une sorte de péril intérieur qui est le multiculturalisme. C'est-à-dire que si on commence à dire qu'au fond, l'Amérique, ça n'est pas une même culture partagée par tout le monde et qui se fonderait dans un canon hérité d'un Occident intemporel, mais si on commence à dire qu'au fond, il y a des apports différents, que la culture commune, elle n'est pas dessinée une fois pour toutes, ça n'est pas simplement un héritage, mais c'est quelque chose qui est en train de se rejouer, de se rediscuter, de se renégocier, eh bien on voit clairement qu'effectivement, la version du canon intemporel qui était proposée dans les universités se trouve remise en cause. Donc il y a une double critique du canon et une double inquiétude pour les défenseurs du canon. D'un côté, le canon serait menacé par des entreprises critiques de déconstruction venue d'auteurs pourtant quelque peu canoniques, c'est-à-dire que Derrida lit souvent du Platon, Et d'autre part, des gens qui se réclameraient non pas de cette culture avec un grand C pour la déconstruire, mais de la multiplicité des cultures avec un petit C, c'est-à-dire de la multiplicité des identités culturelles, des appartenances culturelles, des communautés. Donc ce serait ce double péril, un péril extérieur et un péril intérieur, quitte parfois à confondre les deux, puisque par exemple dans un dessin qui était publié dans le New York Times au début des années 90, on voyait écrit le mot multiculturalisme fragmenté, c'est-à-dire c'était un bout de papier déchiré, ce qui montrait bien qu'il n'y avait plus d'unité de la nation, le multiculturalisme fragmentait la nation. Mais multiculturalisme, de manière intéressante, dans le New York Times, était écrit en français, donc avec un E à la fin. Donc on voyait bien que tout cela, finalement, c'était la même chose. Tout ça, c'était la remise en cause de la culture nationale unifiée. Vous voyez bien, le paradoxe, c'est qu'aux États-Unis, on avait une vision qui était en quelque sorte en miroir de ce que je viens de vous décrire pour le côté français, avec le sentiment en France que d'Amérique venait une fragmentation de la nation par le communautarisme, et aux États-Unis, l'impression que de France arrivait une nation fragmentée, un multiculturalisme qui déchirait la nation à cause d'auteurs comme Derrida, Foucault et autres. Alors le livre d'Alan Bloom, de 1987, a eu un succès considérable. Alors que c'est un livre assez indigeste, assez long, il s'est vendu comme des petits pains, parce qu'il résonnait avec une inquiétude sur le relativisme qui se développerait sur les campus. L'inquiétude sur les universités est toujours très grande aux États-Unis, puisque l'université, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais si vous voulez, on pourrait y revenir, l'université, c'est ce qui constitue la classe moyenne. Donc, la question de savoir qu'est-ce qui se transmet aux classes moyennes, évidemment, c'est constitutif de la nation, mais aussi de la nation à travers une identité de classe et une identité de classe moyenne. Donc ce livre a eu un impact considérable et on peut dire qu'il a un équivalent français. Publié la même année, c'est le livre d'Alain Finkielkraut que j'évoquais tout à l'heure, La défaite de la pensée. Alors j'utilisais tout à l'heure le terme de philosophe à propos d'Alain Finkielkraut, c'était dans un moment d'emportement, mais disons qu'en tout cas c'est un auteur dont il ne vous aura sans doute pas échappé qu'il a une certaine importance dans l'espace public. Qu'est-ce qu'il dit et qui résonne, me semble-t-il, avec le livre d'Alan Bloom, c'est que la culture avec un grand C, elle est menacée des deux côtés. Elle est menacée d'une part par le relativisme, en gros la logique du marché, l'individualisme démocratique moderne, et d'autre part par le culturalisme, la pluralité des cultures. En quelque sorte, le double horizon menaçant, c'est ce qu'il résume en disant il y a d'un côté le zombie et de l'autre le fanatique qui menacerait la culture. Le zombie, on l'imagine, c'est un jeune qui joue avec sa PlayStation, c'était pas encore des PlayStation à l'époque, hein, mais j'actualise le langage. Le fanatique, j'ai à peine besoin de vous actualiser le langage, mais on voit bien que l'islam n'est pas très loin. Donc, en gros, on voit bien la double menace d'une culture du marché et d'une culture de la démocratie, d'un côté, et d'une culture fanatique qui viendrait, et l'une et l'autre, remettre en cause une vision haute de la culture, ce qu'on appellerait en anglais « high culture », donc la culture majuscule, si vous voulez. Alors, ce qui me paraît remarquable, c'est la coïncidence entre ces deux campagnes idéologiques, politiques, en France et aux États-Unis, et la résonance rencontrée des deux côtés. Donc il y a une circulation qui passe précisément par le fait, comme je vous le disais au début, qu'au même moment en France, eh bien, il y a une discussion sur est-ce que les États-Unis, ça peut nous aider à penser l'immigration, d'une part, et d'autre part, un débat dans l'espace public sur est-ce que l'Amérique, c'est le contre-modèle de la République. Donc, si circule cette inquiétude sur la culture et sur l'articulation entre les deux cultures, c'est bien qu'il y a une circulation des images franco-américaines qui joue dans les deux sens. Dernière remarque avant de faire mon flashback promis. Dernière remarque sur le rapport de ces discours avec les sciences sociales. Les sciences sociales, je vous disais que les deux auteurs, qu'il s'agisse d'Alan Bloom ou d'Alain Finkielkraut, se réclament de la philosophie. Dans le cas d'Alan Bloom, jusqu'à un certain point, et en cela il est straussien, et dans le cas de Finkielkraut, très explicitement, les sciences sociales font partie du problème. C'est-à-dire que, pour Finkielkraut, la culture est mise en péril à la fois par des discours venus de la sociologie, tels que celui de Bourdieu et de ses disciples. Pourquoi ? Parce que si on commence à insister sur le fait que eh bien, la culture, c'est un mécanisme de reproduction sociale, c'est un mécanisme de distinction sociale, eh bien, ça veut dire qu'on remet en cause l'évidence d'une hiérarchie de la culture, puisque, après tout, on pourra se demander dans quelle mesure c'est une véritable hiérarchie symbolique ou dans quelle mesure cette hiérarchie symbolique, elle n'est pas simplement le masque d'une hiérarchie sociale. Donc la critique des valeurs culturelles par la sociologie comme étant en même temps des valeurs sociales, elle est perçue comme mettant en danger la définition même de la culture du point de vue de cette défense de la haute culture. Mais de la même manière que la sociologie peut paraître relativiste à l'intérieur de la culture nationale, de la même manière l'anthropologie est dénoncée comme relativiste à l'extérieur. Et c'est Lévi-Strauss qui est critiqué par Finkielkraut, comme il l'est d'ailleurs par d'autres auteurs, comme Taguieff. Et au-delà de Finkielkraut, il s'agit, au-delà de Lévi-Strauss, il s'agit du statut de l'anthropologie, c'est-à-dire l'idée que l'anthropologie, en nous montrant qu'il y a des logiques culturelles dans d'autres cultures, et non pas simplement une hiérarchie des cultures, participerait du relativisme qui saperait les fondements de la culture majuscule. Donc, et la sociologie à la Bourdieu, et l'anthropologie à la Lévi-Strauss apparaissent comme des menaces pour la culture majuscule. Alors, je reviens maintenant au flashback promis. Dans cette construction opposant la France aux États-Unis, ou bien la France à l'Amérique, on a le sentiment que si la France a toujours méconnu la pluralité culturelle qui a constitué son histoire, en revanche, les États-Unis ou l'Amérique, selon qu'on se place du point de vue de l'histoire ou qu'on se place du point de vue du discours politique, les États-Unis ou l'Amérique auraient toujours déjà été multiculturalistes. Et il me semble que cette vision-là est problématique. C'est-à-dire qu'il me paraît très contestable que les États-Unis aient toujours fonctionné sur une reconnaissance de la diversité. Je ne vais pas vous faire un cours général sur l'histoire des États-Unis, mais on peut quand même rappeler qu'après tout, les États-Unis ont été fondés, entre autres, non seulement sur les principes de la Constitution, mais aussi sur la réalité reconnu par la Constitution, de l'esclavage. Tout le monde le sait bien, mais malgré tout, ça n'est pas un incident anecdotique et extérieur à la Constitution de l'histoire nationale. C'est quelque chose qui joue un rôle décisif dans l'histoire des États-Unis, non seulement jusqu'à la guerre de Sécession, mais jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que la question qui se pose constamment aux États-Unis, lorsqu'on parle de culture, c'est de savoir dans quelle mesure on peut considérer que la question noire, au fond, on peut la ranger dans les questions d'immigration. Évidemment, historiquement, non. Il est clair que les esclaves ne sont pas des immigrés comme les autres. Mais en même temps, la question, comme vous le savez, c'est qu'aux États-Unis, on parle par exemple de African American, donc des Africains américains, c'est-à-dire qu'on reprend une catégorie de langage qui existe pour les immigrés, de ce qu'on appelle les hyphenated Americans, c'est-à-dire les Américains à trait d'union. Donc, Une des manières de penser la question noire, c'est de se dire qu'au fond, les noirs, mutatis mutandis, c'est comme les juifs, c'est comme les italiens, c'est comme les polonais, c'est comme les irlandais, ou c'est comme aujourd'hui les hispaniques, ou c'est comme les asiatiques, qu'au fond, c'est la même chose, avec des variantes historiques. Dans un livre qui est publié en 1963 ou 4, je vais vous dire ça dans quelques instants. Oui. Donc je continue, mais dans un livre qui s'appelle Beyond the Melting Pot, donc Au-delà du Melting Pot, un livre qui est publié par deux auteurs. Je ne vais pas vous dicter les noms des deux, mais je vais vous les dire au moins et je vous dicterai le premier. Nathan Glaser, donc Nathan Glaser, G-L-A-Z-E-R, et Daniel Patrick Moynihan, donc ça je ne vais pas vous les plier parce que ça fera trop long. Donc c'est publié pour la première fois en 1963. Bon, si je vous le dis, parce que ça peut être sympa quand même de savoir comment s'écrit Moynihan, c'est une figure importante, M-O-Y-N-I-H-A-N. Donc Daniel Patrick Moynihan. Si ça vous intéresse, je vous raconterai des trucs sur Moynihan. C'est une figure très intéressante, un sénateur démocrate qui a travaillé pour Nixon, qui était plus récemment proche de Hillary Clinton, mais il est mort depuis, etc. On voit bien, mais sans lien de cause à effet, dans ce livre, Au-delà du Melting Pot, eh bien, en 1963, ce que disent le sociologue Glaser et l'essayiste politique Moynihan, c'est, au fond, on a cru aux États-Unis qu'on fonctionnait sur un modèle qui était celui du Melting Pot. Ben, c'est pas vrai. C'est pas vrai, et le sous-titre... je vous le lis en anglais et je vous le traduis après, c'est « The Negroes, Puerto Ricans, Jews, Italians and Irish of New York City ». Donc, les Noirs, les Portoricains, alors les Noirs, au passage, vous remarquez que c'est le terme qui, à l'époque, « Negro », était le terme utilisé couramment, c'est un terme qui est aujourd'hui tombé en désuétude. Donc, les Noirs, les Portoricains, là aussi, plus personne ne parle des Portoricains, puisque les Portoricains, aujourd'hui, appartiennent à une catégorie beaucoup plus vaste que les Hispaniques ou Latinos. Vous utilisez l'un ou l'autre indifféremment aujourd'hui, peu importe. Dans les catégories du recensement sont les hispaniques, dans le discours politique c'est plutôt des latinos, mais enfin bon, peu importe. Les juifs ont disparu de la planète ethnique depuis. Il y a un livre qui s'appelle « Comment les juifs sont devenus blancs ». C'est-à-dire qu'en gros, si on prend toutes les catégories qui sont ici, on s'aperçoit que ça disparaît. Les Italiens, c'est plus une catégorie ethnique aujourd'hui, sauf de manière résiduelle aux États-Unis. C'est-à-dire, si vous allez à New York, bien sûr, il y a un petit quartier italien parce qu'il y a des restaurants italiens. Enfin, en gros, les gens ne sont pas plus italiens que moi, si je puis dire. Avec un nom qui se termine en ien, vous vous doutez que c'est louche. Les Irlandais. Les Irlandais aussi, c'est une catégorie ethnique importante à l'époque où ils écrivent, mais qui, en gros, n'a quasiment plus de validité aujourd'hui dans le paysage ethnique américain. Bon. Mais ce qui est intéressant, et c'est ce que je veux souligner pour l'instant, mais j'y reviendrai, c'est que si toutes ces catégories ont bougé, certaines sont devenues obsolètes, certaines ont été englobées dans d'autres, il y a quand même une catégorie qui n'a pas bougé, c'est les Noirs. C'est-à-dire qu'au fond... Dans la liste de ces catégories, il y en a une qui reste entièrement d'actualité, même si le nom a changé, c'est les Noirs. C'est-à-dire que le fait d'être noir aux États-Unis, c'est une catégorie qui a vraiment du sens. Et ça reste une catégorie dans les statistiques qui a du sens, mais dans l'expérience sociale de manière générale. Autrement dit, si là on considère qu'au fond, les Noirs, c'est comme les Juifs, c'est comme les Italiens, c'est comme les Irlandais, etc., ça fait partie de la grande histoire de l'immigration américaine, eh bien, en fait, ce que Glaser va petit à petit reconnaître, c'est le fait qu'il y a une irréductibilité de la question noire aux États-Unis qui ne peut pas se fondre dans la question de l'immigration. Donc la question qu'on appelle en anglais de la race, la question de la race ne peut pas se dissoudre dans la question de l'ethnicité, non pas évidemment pour des raisons biologiques, non pas évidemment pour des raisons qui seraient liées à la couleur de peau, etc., mais qui sont liées à l'histoire. C'est-à-dire c'est l'histoire sociale la question de la construction des races et de l'ethnicité aux États-Unis qui fait que la question noire, c'est autre chose. Donc ça, c'est une des premières manières, déjà, dont on peut remettre en cause l'évidence selon laquelle l'Amérique aurait toujours déjà été multiculturaliste. C'est d'abord que la question noire aux États-Unis, ça a toujours été une fracture qui a organisé en même temps que divisé la société américaine. La deuxième chose, c'est que si vous lisez des textes du XVIIIe siècle, par exemple Crèvecœur, qui écrit les lettres d'un fermier américain, vous voyez qu'il y a déjà des questions. Alors, il s'appelle Crèvecœur, ce qui est un nom bien français, donc on se dit, ah ben ça, c'est intéressant, il écrit sur qu'est-ce que c'est qu'être américain, etc. Bon. Justement, on peut avoir l'impression que ce sont déjà les mêmes questions sur le melting pot, il y a des gens qui viennent de partout, etc. Mais en fait, derrière ce langage, derrière le fait que dès le XVIIIe siècle, il y a une devise américaine qui s'appelle, enfin, qui est « e pluribus unum », donc à partir de plusieurs uns, bon, on peut avoir l'impression que c'est toujours la même histoire, qu'au fond, c'est l'éternel recommencement du melting pot aux États-Unis. Mais d'abord, « e pluribus unum » au XVIIIe siècle, ça ne renvoie pas ça du tout. Ça renvoie d'abord au fait qu'il y a plusieurs colonies qui vont décider de travailler ensemble. Donc il ne s'agit pas d'ethnicité. Et de manière générale, il va y avoir une tendance très forte à la fin du XVIIIe siècle et au XIXe siècle pour unifier la nation, et non pas au contraire pour reconnaître la pluralité des cultures. L'effort pour unifier la nation qui va se jouer, par exemple, dans la langue, pour le fait de constituer une langue américaine. Et unifier la langue de la nation, c'est un élément qui ne nous saute pas aux yeux vu de France, parce qu'au fond, on a l'impression que quand même, à peu de choses près, l'américain c'est de l'anglais, ce qui est vrai. Mais il y a eu tout un effort pour penser, au XIXe siècle, la différence entre la langue britannique et la langue américaine. Donc, certaines des différences d'orthographe, certaines des différences de vocabulaire, elles ont été délibérément mises en place pour marquer l'autonomie de la langue nationale par rapport à la langue anglaise. De manière générale, la question du multiculturalisme au XIXe siècle ne se pose donc pas du tout dans des termes comparables à ceux qu'on va rencontrer au XXe siècle. Le darwinisme social, qui est le langage dominant pour penser la société à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, le darwinisme social, c'est un langage qui pose non pas une sorte de brassage des cultures, mais des différences raciales. C'est un discours qui naturalise les différences entre les communautés. Donc d'un côté, on pense l'unité de la nation, mais d'un autre côté, on pense des fractures irréductibles entre les différentes communautés. Donc c'est seulement au début du XXe siècle qu'on voit se développer le thème du melting pot. Une pièce de 1908 s'appelle The Melting Pot, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'en parler, de Zangwill, Zangwill, Israël Zangwill. Un des endroits en français où ce texte est discuté de manière intéressante, c'est le livre de Denis Lacorne sur la crise de l'identité américaine, que peut-être vous avez eu l'occasion de croiser dans vos lectures ou dans vos cours. Ce livre, eh bien, il va donner cette image, au fond, du melting pot, et donnera l'impression que d'un côté, il y a pluralité des cultures, mais d'un autre côté, il y a la fusion, parce que cette pièce aura un succès, cette pièce qui n'est pas géniale, mais elle aura un succès considérable. C'est un peu comme le livre d'Alan Bloom, il n'est pas génial, mais il a un succès considérable, parce que ça rencontre une préoccupation de l'époque. L'envers de ce melting pot, c'est les arguments sur le pluralisme culturel qui vont être mis en place dès les années 20 par un penseur comme Horace Kallen, K-A-2-L-E-N, c'est-à-dire qu'à côté de l'idée que toutes les cultures convergent vers une certaine fusion dans un creuset, donc dans cette grande marmite du melting pot, eh bien, par contraste, il va y avoir l'insistance par Horace Kallen sur le pluralisme culturel aux États-Unis. Autrement dit, il me semble qu'on voit, premièrement, que c'est au XXe siècle que cette question commence à se poser, qu'elle n'est donc pas une question éternelle, ça n'est pas constitutif de l'Amérique depuis son début, c'est très directement l'héritage des grandes vagues d'immigration de la fin du XIXe siècle. Et donc, les mythes qui vont être, les mythes fondateurs de la nation américaine sont des mythes fondateurs dans un deuxième temps. C'est-à-dire, ce sont des mythes de refondation, à bien des égards, de la nation américaine à la fin du XIXe siècle. Et ces mythes, ils vont être réactivés à la fin du XXe siècle, avec, par exemple, la constitution d'un musée de l'immigration à Ellis Island. Ellis Island, qui est donc juste aux portes de Manhattan, ce petit îlot qui a servi à accueillir les immigrés à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, même si le terme d'accueillir paraît plus chaleureux que la réalité ne l'était sans doute, disons à trier les immigrés, puisqu'un certain nombre n'était pas admis à entrer. Donc une sorte de garde-triage de l'immigration qui a été exaltée dans le souvenir collectif, puisque c'est à côté de la Statue de la Liberté, et la Statue de la Liberté met en scène cette idée que l'Amérique, eh bien, ce serait celle qui accueille les miséreux de la terre entière. Donc, premièrement, cette problématique d'une diversité qui se fondrait dans un creuset ou bien qui laisserait subsister le pluralisme culturel, elle n'est pas inscrite de toute éternité dans l'histoire américaine. Mais deuxièmement, dès le début, ça n'est pas une problématique qui définirait une culture commune, ça définit un enjeu. Autrement dit, tout le monde n'est pas d'accord et il va y avoir une histoire au XXe siècle du multiculturalisme qui est une histoire d'affrontement. Il ne s'agit pas de se dire que l'Amérique a toujours déjà eu en partage le multiculturalisme, mais il ne s'agit pas non plus de dire que tout au long du XXe siècle, l'Amérique aurait découvert à Ellis Island et ensuite aurait conservé à tout jamais l'idée d'un pluralisme culturel. En fait, c'est un enjeu constant dans le débat politique aux États-Unis et encore aujourd'hui avec les débats sur l'immigration. Puisque, vous le savez sans doute, la question de l'immigration, elle a été centrale dans les derniers mois et dans les dernières années, non seulement en France, ce qui ne vous aura pas échappé, mais aussi aux États-Unis, avec par exemple les énormes manifestations l'année dernière dans les grandes villes américaines, d'hispaniques ou latinos, à propos de réformes de l'immigration visant à pénaliser les immigrés en situation irrégulière aux États-Unis, c'est-à-dire en particulier les hispaniques. Donc il ne faudrait pas imaginer que, au fond, ce serait une culture partagée du multiculturalisme, c'est beaucoup plus un enjeu récurrent dans l'histoire des États-Unis. Alors, je vous parlais tout à l'heure du livre de Nathan Glaser en 1963. Donc au-delà de Nathan Glaser et Daniel Moynihan en 1963, Beyond the Melting Pot. Donc au-delà du Melting Pot, pardon. Je garde Melting Pot puisque ce vocable est entré dans la langue française, me semble-t-il. Ce qui est intéressant, c'est que à ce moment-là, ce que racontent Glaser et Moynihan, à savoir la pluralité qui subsiste des cultures immigrées, c'est quelque chose qui apparaît comme une rupture. Ce livre a eu un impact considérable, précisément parce que il changeait la manière dont on se représentait les choses. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait bien sûr des travaux sur l'immigration qui ont joué un rôle important aux États-Unis, en particulier avec un historien sociologue, plutôt sociologue, qui s'appelle Oscar Handlin, H-A-N-D-L-I-N, qui avait en particulier publié un ouvrage, et je suis désolé, j'ai oublié de vérifier la date, mais c'est dans les années 50, qui s'appelait The Uprooted. Donc, Uprooted, c'est les déracinés. Avec l'idée que l'histoire américaine est tout entière construite à partir de cette expérience de déracinement, donc uprooted en un seul mot, donc le mot root de racine, donc l'histoire américaine serait tout entière une histoire du déracinement. Ce serait au fond ce que tous les Américains auraient en partage, c'est cet arrachement premier. Donc on avait déjà, évidemment, une réflexion sur l'immigration comme constitutive de l'histoire nationale. Mais l'idée, c'est que ce déracinement, il était inaugural, mais que, au fond, il était voué à constituer une expérience première, mais non pas une expérience durable. On était déraciné, Mais le but, c'était ensuite d'être assimilé. Et on était assimilé. On finissait par être assimilé. Donc le fait de faire une place centrale à la question de l'immigration n'implique aucunement une vision multiculturaliste. Ça n'est pas parce qu'on dit « ils viennent de partout » qu'on va considérer qu'ils restent d'ailleurs. Or, c'est cela que suggère « Beyond the Melting Pot », au-delà du melting pot, en 1963. C'est le fait que ces identités, eh bien, elles ne s'effacent pas. À la deuxième, à la troisième génération, il y a de l'ethnicité. Et donc se développe, à partir des années 60, tout un champ de recherche autour de la question de l'ethnicité. Parce que l'ethnicité n'apparaît plus, se distingue donc de cette question de l'immigration. Il ne s'agit plus simplement de dire « nous sommes tous des immigrés », autrement dit « nos grands-parents étaient tous des immigrés », mais il s'agit de dire « nous sommes tous définis par une appartenance ethnique ». Pas seulement au passé, mais au présent. Et cette appartenance ethnique, ce que disent bien Glaser et Moynihan, c'est qu'elle n'est pas simplement l'héritage d'un passé. Elle est le fait d'une réalité bien présente. Il ne s'agit pas simplement de mémoire. Ce n'est pas simplement le fait que les gens partagent des pratiques culinaires. Donc on n'est pas seulement dans une sorte de folklore culturel. On est dans une identité ethnique qui s'appuie sur le fait qu'il y a des groupes d'intérêts. Que c'est une des manières d'exister politiquement. Donc l'ethnicité, ce n'est pas simplement le fait de bien aimer manger des pâtes ou, pour les juifs, des bagels. Je ne vais pas me lancer sur le reste parce que j'ai peur de me tromper, ou que les Irlandais aiment le whisky, etc. Et je ne vais pas en rajouter non plus dans les clichés. Mais donc, ce n'est pas seulement ça. C'est le fait que ce sont des groupes d'intérêts. Or, ce livre, c'est intéressant parce qu'il décrit non pas l'Amérique en général, mais la ville de New York. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'au fond, souvent, quand on parle de New York, si vous vous intéressez aux États-Unis, vous l'avez sans doute remarqué, la question, c'est de savoir si New York, c'est les États-Unis ou pas. C'est ça le fond de l'affaire. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a les vrais États-Unis et à côté, il y a New York, parce que New York, c'est quand même autre chose, c'est cosmopolite, c'est plus européen, c'est plus, etc. Ou est-ce qu'au fond, on va pouvoir retourner les choses pour dire que New York, c'est vraiment l'Amérique? Et c'est un mouvement de balancier dans l'histoire des États-Unis constant. Donc, en gros, depuis le 11 septembre, New York, c'est redevenu vraiment l'Amérique. Il y a des petits drapeaux partout, etc. C'est la nation. Bon. Mais avant le 11 septembre, ce n'était pas trop l'Amérique. Mais on voit bien aussi que ça peut rebasculer. C'est-à-dire que dans les élections, par exemple, dans les élections de 2004, on vous présentait, je ne sais pas si vous aviez vu cette carte des États-Unis qui était montrée juste après les élections, où on voyait, il y avait les côtes qui avaient voté bleu, c'est-à-dire républicain, et il y avait tout ce qui était au milieu qui avait voté rouge. Bleu démocrate, pardon, et rouge républicain, pardon. Rouge au centre et bleu sur les côtes. Bon. Ce qui était intéressant, c'est qu'à ce moment-là, et avec l'idée que, qu'évidemment on pourrait séparer tout ça, parce qu'il y avait des cartes humoristiques disant qu'on pourrait séparer d'un côté les États-Unis d'Amérique, dans lesquels on inclurait le Canada, et puis qu'il y aurait au milieu Jesus Land, donc la terre de Jésus. Bon. Mais au-delà de cette problématique, on voyait bien qu'à nouveau c'était la question, est-ce que les côtes ça fait partie des États-Unis? Donc est-ce que San Francisco et New York c'est vraiment les États-Unis? Ce qui est intéressant, c'est que là, New York sert de prototype, sert de modèle pour penser les États-Unis. C'est-à-dire que la pluralité ethnique dont New York est le théâtre deviendrait le modèle pour penser ce qui se passe dans l'Amérique tout entière. Donc ce livre marque une rupture par rapport à ce qui précède. Si vous regardez, par exemple, Glaser avait participé à un livre dans les années 50, qui avait eu également, alors je l'ai apporté aussi, mais je n'aurai pas le temps de vous en parler non plus, donc, c'est pas grave. Enfin, il avait contribué également à un livre au début des années 50 qui s'appelle The Organization Man, l'homme organisationnel, c'est-à-dire une vision en quelque sorte de psychologie sociale l'Amérique. À ce moment-là, on voit bien qu'il n'est pas question d'ethnicité. Il s'agit au fond de penser l'homme moyen aux États-Unis. Il s'agit de penser quelque chose qui serait en quelque sorte une manière d'être américaine constitutive d'une communauté américaine. En 63, avec Beyond the Melting Pot, on découvre que l'Amérique est multiculturelle. Ce n'est pas que l'Amérique a toujours déjà été multiculturelle, c'est que c'est une nouvelle manière de se représenter le pays qui est mise en scène et qui va être mise en scène dans beaucoup de travaux scientifiques, des travaux d'historiens, de sociologues. La question de l'ethnicité devient une sorte d'industrie académique. Il y a des livres, des collections, des séries, etc., des revues scientifiques, etc. Mais aussi, c'est un discours politique. Parce que dans les années 60, le discours sur l'ethnicité, il va avec la remise en cause des représentations politiques de l'Amérique des années 50, c'est-à-dire avec une sorte de normalisation qui avait été la règle en quelque sorte après la Deuxième Guerre mondiale. Après la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup de discours politiques et beaucoup de discours sociaux, que ce soit sur les questions d'ethnicité, que ce soit sur les questions de genre, que ce soit sur les questions de sexualité, que ce soit sur les questions de mode de vie en général, avec le développement des banlieues, etc., c'est tout un effort de normalisation avec le développement d'une classe moyenne autour d'une vie économique qui va du monde des bureaux au monde des banlieues, à travers le développement de l'automobile et à travers le développement des autoroutes. Donc, il y a une vaste entreprise de normalisation qui est constitutive de la définition de l'américanité dans les années 50 et dont l'envers se joue avec le maccartisme. Mais dans les années 60, c'est bien ça qui va être remis en cause. Donc, c'est cette uniformisation et cette normalisation de la société américaine qui est remise en cause dans beaucoup de domaines, avec les mouvements étudiants par exemple, mais aussi dans des domaines tels que la question de la culture autour de la musique par exemple, mais aussi dans des domaines tels que la sexualité, mais aussi dans des domaines tels que le genre, mais aussi dans des domaines tels que la question des cultures ethniques. Autrement dit, ça va se jouer sur les questions ethniques, mais aussi sur la question raciale, en particulier autour des mouvements noirs, une valorisation de la différence. La différence comme un principe d'action politique. Avec les slogans, par exemple, sur le fait que « Black is beautiful ». Donc que le noir, c'est beau. Être noir, c'est beau. Une valorisation, donc une sorte de renversement de l'assignation à la normalité qui, en quelque sorte, visait à homogénéiser et à faire comme si tout le monde était pareil, et pareil voulant dire plutôt blanc. Le livre Beyond the Melting Pot, donc, peut être pris comme une sorte de tournant dans cette représentation du multiculturalisme. Et je reviens maintenant à 88. Qu'est-ce qui se passe en 88 avec le livre d'Alan Bloom? Qu'est-ce qui fait qu'on est passé d'une sorte de découverte de la diversité ethnique aux États-Unis à l'impression que les fondements même de la nation américaine sont menacés par le relativisme? On aura un livre, par exemple, publié au début des années 90 par Arthur Schlesinger, S-C-H-L-E-S-I-N-G-E-R, qui s'appelle The Disuniting of America, donc la désunion de l'Amérique. Avec l'idée qu'avec toutes ces histoires de multiculturalisme, on est en train de fragmenter la nation et que la nation ne va plus pouvoir tenir, qu'il ne va plus y avoir de possibilité de cohésion nationale. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux ? Il y a bien sûr l'appropriation politique dans les années 60 et 70, comme je viens de vous le dire, de ces langages de la diversité, de la différence, du pluralisme. Mais il y a aussi un contre-mouvement qui va se développer à partir des années 70, en particulier de manière très explicite, à l'instigation des néoconservateurs. Que disent les néoconservateurs dans les années 70? C'est « nous avons perdu la bataille de l'opinion ». Pourquoi? Parce que la nouvelle gauche américaine depuis les années 60, tous ces mouvements à la fois d'étudiants, ces mouvements ethniques, ces mouvements raciaux, ces mouvements féministes, etc., toute cette nouvelle gauche qui posait de nouvelles questions, eh bien, elle s'est emparée de la culture. Elle a compris que la politique, c'était dans le domaine de la culture que ça pouvait se jouer. Et que dit, à ce moment-là, la droite néoconservatrice? Elle dit, eh bien, à notre tour. À notre tour de nous approprier la culture comme un langage politique, comme le langage politique par excellence. La gauche a gagné sur le terrain de la culture, les néoconservateurs vont se fixer pour objet de gagner sur le terrain de la culture. Ça, c'est une stratégie concertée, mise en place entre autres par des fondations conservatrices américaines dès la deuxième moitié des années 70. Des fondations, vous savez, enfin, je ne sais pas si vous savez, mais à tout hasard, au cas où vous ne sauriez pas, je dis, les fondations, bah, c'est de l'argent privé qui va permettre de financer ce qu'on veut. Ce qu'on veut, ça peut vouloir dire d'aider des auteurs à publier des livres. Ça peut être de financer des recherches. Ça peut être de financer des chaires universitaires. Donc, la plupart des acteurs dont je vais parler brièvement parce que je m'aperçois qu'il est un peu plus tard que je ne voulais, donc la plupart des acteurs des débats de ce qu'on peut appeler les guerres des cultures du côté conservateur, eh bien, ce sont des gens qui sont financés par les fondations conservatrices. Prenons un exemple que vous avez peut-être vu passer, Dinesh D'Souza, un intellectuel conservateur. D'Souza, ça s'écrit D'Souza. H, j'ai un doute sur le H. Il n'y a pas de H, non. Je suis plus sûr, mais je suis désolé, j'ai un doute. Dinesh, en tout cas, ça s'écrit D-I-N-E-S-H, D-I-N-E-S-H, donc Dinesh D'Souza, qui a écrit un livre influent dénonçant, dans le sillage d'Alan Bloom, dénonçant la dérive des campus. Eh bien, Dinesh D'Souza, son livre et sa position est entièrement financée par des fondations conservatrices américaines. On pourrait prendre beaucoup d'autres exemples. L'auteur d'un livre en 1994, l'un des deux auteurs d'un livre qui s'appelle The Bell Curve, donc La courbe en cloche, ouvrage qui montre bien que, qui prétend montrer que les races ont un fondement en quelque sorte immuable, c'est-à-dire qu'on ne va pas changer par l'État-providence la société, puisque, au fond, les questions raciales, elles renvoient à des questions de QI, et que les questions de QI renvoient à des questions de gènes. Bon. Si vous voulez, je vous parlerai aussi de cet ouvrage qui m'a beaucoup intéressé, sans inspirer ma complète sympathie. Mais ce livre important, malheureusement, ce livre important est entièrement financé par une fondation conservatrice. Donc ces questions de fondation conservatrice ne sont pas du tout anecdotiques, puisqu'elles contribuent largement à rendre légitimes et possibles des débats sur tel ou tel sujet. Bon. Donc ces fondations, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont dire la bataille, elle doit se jouer en termes de culture. Alors qu'est-ce que ça veut dire la culture? En fait, on s'aperçoit que toutes sortes d'ouvrages paraissent à la fin des années 80 qui s'intitulent « Culture Wars ». Et si vous regardez ces ouvrages, vous apercevez qu'ils ne parlent pas de la même chose. Pas du tout. « Culture Wars », donc, pardon, « Les guerres des cultures ». Les guerres des cultures, ça peut renvoyer à des débats qui vont jouer un rôle très important, qui sont sur les questions sexuelles, par exemple l'avortement. Mais au-delà de la question de l'avortement, c'est toute la question de la famille, la question des mœurs. Donc ça, c'est un des premiers champs d'action. Ça va être une sorte de contre-attaque contre les mouvements des années 60 et des années 70, portée par ce qu'on appelle la majorité morale dans les années 80, qui va porter au pouvoir Ronald Reagan, et qui va placer au centre de la politique américaine des questions telles que l'avortement, telles que la pornographie, telles que la prostitution, telles que, bref, un ensemble de questions sexuelles qui vont se retrouver comme des questions culturelles, c'est-à-dire opposant deux cultures à l'intérieur de la nation. Ça, c'est une première manière de penser que les combats politiques sont des combats culturels. Ce sont des combats culturels au sens où s'affrontent deux cultures, une culture héritée des années 60 et des années 70, et une culture conservatrice qui se veut porteuse de modernité. Deuxième champ d'action de ces batailles culturelles, l'art. Les culture wars, ce sont aussi les batailles, les guerres des cultures autour du financement de l'art aux États-Unis. Parce que l'art, il est financé en partie par des institutions d'État, en particulier le National Endowment for the Arts, donc le Fonds National pour les Arts, donc NEA. Il va y avoir de grandes querelles à la fin des années 80, en particulier en 1989, autour, par exemple, d'une œuvre d'art qui provoque le scandale, qui s'appelle Piss Christ. Donc je vous le donne en anglais parce que j'hésitais à le traduire, mais je vais quand même le traduire. C'est Christ Piss, en fait, il suffit de le dire comme ça. Et c'est un crucifix plongé dans un bocal d'urine. Bon. Alors, je vous laisse à penser que ça n'a pas enchanté tout le monde. Et que donc la question de savoir s'il était légitime que de l'argent public contribue à financer cette forme d'art a suscité de grands débats. Mais on voit bien que cette œuvre, elle prend tout son sens précisément dans le contexte de ces guerres des cultures. C'est-à-dire que ceux qui vont vouloir censurer une telle œuvre, eh bien répondent à une œuvre qui est elle-même une réponse à toute l'entreprise de moralisation de la culture engagée par la droite conservatrice dans les années 80. Un autre exemple, ce sont les photographies de Mapplethorpe, donc le photographe homosexuel, qui illustre dans des photographies somptueuses, mais qui choquent beaucoup de gens, qui illustre la culture ou la sous-culture homosexuelle urbaine, dans ses aspects, on dirait en anglais, les plus graphiques, y compris en jouant de la diversité raciale. Donc les images qui ont fait sursauter pas mal de gens de Mapplethorpe, eh bien, ces images vont devenir, de la même manière que Piss Christ, vont devenir des enjeux dans les batailles politiques de la fin des années 80. Donc ça, c'est une deuxième manière de considérer qu'il y a des batailles culturelles. Une troisième manière de considérer qu'il y a des guerres des cultures, c'est précisément autour du multiculturalisme. C'est-à-dire, c'est l'idée qu'on est en train de fragmenter la nation à travers toutes ces revendications ethniques. On est en train d'enfermer les gens dans des identités et de les empêcher d'accéder à une sorte d'identité nationale. Cet argument, il est développé par les conservateurs, mais il va être repris par beaucoup de libéraux. Et vous savez qu'aux États-Unis, le terme libéral est situé à gauche, à la différence de la France, ou à la différence de la France en général. Donc les libéraux vont être tentés par ce thème parce que, précisément, l'idée qu'on puisse être enfermé dans une culture est tout à fait contradictoire avec l'idéologie politique libérale. qui aspire à l'émancipation des individus. Donc, le combat autour du multiculturalisme, c'est une autre déclinaison de ces guerres des cultures. Mais cette guerre qui se joue sur le multiculturalisme, elle se joue dans la société, mais elle se joue aussi, de manière privilégiée, dans les universités. Les universités vont être le champ de bataille par excellence de ces guerres des cultures. Et sur les questions sexuelles, avec les batailles autour de la représentation de la violence, de la pornographie, etc. Et sur les questions artistiques. Et sur les questions de diversité ethnique, avec les débats en particulier autour de ce qu'on appelle affirmative action, c'est-à-dire, on pourrait traduire, soit par discrimination positive, soit par traitement préférentiel. Et autour, je le disais tout à l'heure, du canon, c'est-à-dire de ce fond commun, de cette culture commune qui doit être transmise à tous. Donc, et j'accélère pour terminer dans 5 minutes, si vous voulez bien, pour que. Et pardon d'être plus long que je n'aurais dû. Ce qui se passe donc, c'est qu'à la fin des années 80, on voit la résultante, premièrement, d'une prise de conscience des questions d'ethnicité. Je vous rappelais donc cet ouvrage, Beyond the Melting Pot, au début des années 60. Deuxièmement, d'une valorisation politique du pluralisme culturel dans les années 60 et les années 70. Troisièmement, d'un retournement de la question de la culture à l'instigation de la droite néoconservatrice et de la droite religieuse aux États-Unis depuis la fin des années 70 et tout au long des années 80. Et quatrièmement, du fait que cette politique des cultures, elle va être greffée de manière privilégiée sur les campus. Et ça va être en particulier la bataille autour de ce qu'on a appelé le politiquement correct. La bataille sur le politiquement correct qui apparaît en 1990 aux États-Unis, donc en dehors de votre période de référence, mais donc la bataille sur le politiquement correct qui va permettre de tenir tous ces bouts à la fois. À la fois les histoires de multiculturalisme, les histoires de canon, les histoires d'ethnicité, les histoires de discrimination positive, les histoires sexuelles. Tout cela, on va pouvoir, en gros, brasser tout ça pour dire, vous voyez, ces idéologies de la nouvelle gauche américaine issue des années 60, en même temps tributaires d'influences venues de France et donc néfastes, tout ça mis ensemble, ça a donné cette fragmentation de la nation qui rend impossible la cohésion nationale. Donc la querelle du politiquement correct, elle est le point de convergence de toutes ces histoires que j'ai essayé de vous rappeler brièvement. Et si je vous montrais au départ que cette histoire, elle est franco-américaine, que ça n'est pas simplement une histoire américaine, mais c'est une histoire qui va et vient entre la France et les États-Unis, vous voyez bien que la question du politiquement correct telle qu'elle a été pensée aux États-Unis, elle a été immédiatement absorbée dans le débat français, avec l'idée qu'il ne fallait surtout pas importer le politiquement correct à l'américaine, et que donc il ne fallait surtout pas faire entendre des revendications minoritaires, qu'il ne fallait surtout pas laisser place au multiculturalisme, qu'il ne fallait surtout pas laisser place à toutes ces questions qui avaient été précisément définies comme l'ennemi par le néoconservatisme et le conservatisme religieux aux États-Unis. Alors je termine avec une sorte de postface. Ce que je vous ai décrit là, c'est jusqu'au début des années 90. Et en 1997, le même Nathan Glaser, enfin c'est pas l'homme du monde le plus important, mais je me suis dit que ça vous donnerait un fil conducteur pour suivre d'une décennie à l'autre. Nathan Glaser donc publie en 1997 un livre qui s'intitule « We are all multiculturalists now ». Nous sommes tous maintenant des multiculturalistes. Alors quand il dit ça, c'est pas pour dire c'est bien, mais c'est pour dire c'est comme ça. on n'a pas le choix. Donc, en quelque sorte, il veut dire que, malgré toutes ces querelles, lui-même est proche des néoconservateurs. Il a participé au lancement de la revue Commentary, qui est une revue centrale, donc commentaire. Enfin, la revue Commentaire française est calquée sur la revue Commentary américaine, qui est elle-même donc issue des années 50 et du mouvement conservateur, néoconservateur. Je ferme la parenthèse. Donc, Nathan Glaser, qui ne se réjouit pas de cette constatation, dit « c'est comme ça, on ne peut pas y échapper ». En fait, ça se voit pas seulement dans les universités auxquelles tout le monde a prêté attention, mais dans les lycées, dans les collèges, dans les écoles. C'est là qu'on le voit. C'est-à-dire qu'on a une société qui est constituée d'une pluralité. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Pour une raison simple, c'est qu'on est au milieu d'une deuxième très grande vague d'immigration comparable à celle qu'on a eue à la fin du XIXe siècle. C'est-à-dire que si la question qui émergeait au début du XXe siècle autour du melting pot et autour du pluralisme culturel dans les années 10 et entre 1908 et les années 20, si elle émergeait à ce moment-là, eh bien elle revient à la fin du XXe siècle pour des raisons assez comparables qui sont une transformation massive de la population, c'est-à-dire le fait que la population blanche est en train de devenir minoritaire aux États-Unis, pour résumer simplement. Donc, on a quelque chose qui est une transformation radicale de la population, mais qui est aussi une transformation dans les débats publics, et donc on peut se dire, c'est fini. L'histoire est jouée. Donc on tourne la page, on ne va pas continuer de manière indéfinie ces histoires de multiculturalisme. Après, tout sera dans les modalités, c'est-à-dire, au fond, comment faut-il gérer ça? Et ça va être du côté de la philosophie politique canadienne, en gros. La philosophie politique canadienne, c'est des auteurs comme Will Kimlicka ou bien comme Charles Taylor, donc des auteurs canadiens qui vont en gros proposer des modèles pour montrer comment la philosophie peut aider à réfléchir à tout ça. Mais en gros, c'est joué. La seule question, c'est comment on gère cette multiplicité des cultures. En même temps, c'est pas joué. Et je termine sur trois points brefs. Premièrement, c'est pas joué parce qu'il y a des gens qui disent « c'est bien beau ». Tout ça, des gens qui viennent de la gauche, qui disent c'est bien beau tout ça, mais les politiques de la reconnaissance, comme en parle Charles Taylor, c'est bien sympathique, mais quand même, et les classes. Donc ça, c'est une critique de gauche qui dit il n'y a pas que les politiques de la reconnaissance, c'est-à-dire reconnaissance des cultures, il y a aussi les politiques de redistribution. Donc c'est la tension entre les logiques de redistribution et de reconnaissance, entre les enjeux de classe et les enjeux ethniques ou raciaux, qui est remise sur la table. C'est-à-dire que, en gros, on dit c'est bien beau la nouvelle gauche issue des années 60, mais la vieille gauche disait quand même des trucs intéressants. Je résume de manière un peu simpliste, mais bon, pour faire vite, c'est un peu ça. Deuxièmement, il se met en place aussi une autre tension. Avec un autre livre qui est publié à partir d'un article de 1997 de Susan Muller Okin, qui est une philosophe féministe. Okin, ça s'écrit O-K-I-N, et Susan S-U-S-A-N, et Muller M-O-2-L-E-R. Donc Susan Muller Okin qui dit, c'est un article qui donnera un livre, « Is multiculturalism bad for women? Est-ce que le multiculturalisme, c'est mauvais pour les femmes ?» C'est-à-dire qu'au lieu de penser que tout ça fait partie d'une même histoire, les grandes remises en cause de la nouvelle gauche des années 60, eh bien on commence à se dire qu'au fond, il n'y a pas convergence des intérêts de tout le monde, et que peut-être la reconnaissance des cultures, elle peut se faire au détriment de la reconnaissance des inégalités entre les sexes. C'est-à-dire que dire « c'est sympa chez les autres », peut amener à s'aveugler au fait que c'est inégalement sympa chez les autres selon qu'on est un homme ou une femme, pour dire vite. Je ne valide pas cette proposition et je ne me lance pas dans la discussion de ça parce que ça sortirait du sujet. Mais je vous dis juste que c'est une question qui émerge dans l'espace public précisément à ce moment-là. Donc, au moment où on dit on est tous multiculturalistes, il y a ceux qui disent et la classe, il y a ceux qui disent et les femmes. Mais il y a aussi un troisième débat qui arrive précisément dans les mêmes années, qui est le débat sur le conflit des civilisations, The Crash of Civilizations. C'est l'argument proposé d'abord dans la revue Foreign Affairs, donc une revue de relations internationales, par Samuel Huntington, Donc, comme ça se prononce. H-U-N-T-I-N-G-T-O-N. Que dit Huntington? Il dit dans l'après-guerre froide, les conflits ne vont pas être des conflits idéologiques. Ça ne va pas être des conflits fondés sur des intérêts économiques, ça va être des conflits fondés sur des différences de culture. Donc, on voit en quelque sorte ressortir la culture comme un enjeu, comme un problème, et je pense que, en gros, la question de savoir si on vit dans un monde qui est organisé par cette question du conflit des civilisations, il ne vous aura pas échappé que nous sommes confrontés à cette question, c'est-à-dire que c'est une grille de lecture du monde qui est proposée de manière insistante, en particulier par les États-Unis depuis un certain temps. On voit bien que ça remet la question de la culture au cœur de la représentation de la politique, mais ça n'est plus la même chose. Là, c'est la culture comme instrument géopolitique. C'est-à-dire que ça n'est plus la culture comme enjeu à l'intérieur de la nation, c'est un enjeu entre les nations. Donc le moment où on commence à dire, en gros, on a épuisé la polémique sur la question du multiculturalisme, c'est le moment, en fait, où peuvent s'ouvrir à la fois des remises en cause du multiculturalisme